Vous écoutez Art District et tout de suite la chronique Muse et Mécène d'Anne Serin-Reil vous fait découvrir des hommes et des femmes qui ont marqué à leur manière l'histoire des arts.
And I would like to play a little tune I just composed not so long ago. Entitled Pannonica. It was named after this beautiful lady here. I think her father gave her that name after a butterfly that he tried to catch. I don't think he caught the butterfly.
Pannonica de Königswater, surnommée la baronne du jazz, est une aristocrate britannique passionnée. Entre 1950 et 1980, elle devient la bienfaitrice et le mécène des plus grands noms du jazz new-yorkais, comme Thelonious Monk, Charlie Parker ou Miles Davis. Elle est la fille de Sir Nathaniel Charles de Rothschild. Banquier par devoir et entomologiste par passion, selon la formule de Nadine de Königswater, la petite fille de la baronne. Enthousiasmé par la découverte d'une nouvelle espèce de papillon en Hongrie, Charles choisit de baptiser sa trouvaille du nom de l'ancienne province romaine à l'origine de la Hongrie, la Pannonie. Et comme il se trouve qu'une fille lui est née, il décide de la prénommer Pannonica. C'est ainsi que le 10 décembre 1913 naît à Londres Kathleen Annie Pannonica Rothschild, sous le signe de la légèreté et de l'éphémère. Après une enfance morne passée dans un pensionnat français, Pannonica rejoint sa famille à Londres. Son frère Victor lui présente le pianiste Teddy Wilson et l'initie au jazz. Elle joue du piano et développe ses talents d'artiste peintre. Médaillée de l'Académie royale de dessin, elle étudie les beaux-arts à Munich. Plus tard, établie à New York, elle pratiquera l'art abstrait avec tout ce qui lui tombera sous la brosse. Lait, whisky, Chanel numéro 5, qu'elle mélange aux couleurs à l'huile. D'après les dires de Ross Russell, le biographe de Charlie Parker. On ne connaît malheureusement de son œuvre que la toile qu'elle réalisa pour la pochette du disque de Bud Powell, Portrait of Thelonious. Ses études d'art terminées, elle rentre en Angleterre et se passionne pour l'aviation. Et c'est en apprenant à piloter qu'elle rencontre celui qui deviendra son époux, le baron Jules de Königswater, aristocrate et futur diplomate. Cependant, la nature artiste et fantasque de Pannonica s'avèreront fort peu adaptées aux fonctions mondaines auxquelles son éducation et son mariage la destinaient. Pendant la Seconde Guerre mondiale, tous deux s'engagent. Jules rejoint les forces françaises libres et Pannonica entre au service de la radio de la France libre à Accra, puis devient chauffeur militaire. Après la guerre, le couple et leurs 5 enfants s'installe à New York, où le baron prend ses fonctions de diplomate. Cependant, celle qui bientôt sera nommée Nika ne se fait pas à cette vie de mondanité et de représentation. Elle s'habille sans soin, déteste les réceptions, fume des joints et court les clubs de jazz jusqu'à l'aube. C'en est trop, le baron finit par la quitter. Nika reste à New York. Exclue de la famille Rothschild, on lui coupe les vivres. Mais peu importe. Il lui reste largement de quoi subvenir à ses besoins et son coupé Bentley gris argent, modèle S1 Continental, que les musiciens s'amusent à appeler le Silver Pigeon. Un soir d'octobre 1958, la baronne descend de New York à Baltimore au volant de sa Bentley. À bord, il y avait un nègre qui se comportait bizarrement, comme l'a précisé au policier le patron d'un motel où le Silver Pigeon avait fait étape. La voiture est arrêtée et fouillée. It's only a garden variety, and that's just enough for one stick, avait négligemment répondu Nika au policier, qui agitait devant elle un sachet de marijuana. La baronne fut condamnée à 3 ans de prison, mais sa fortune, ses relations et des mois de procédure l'attirèrent de ce mauvais pas. L'homme au comportement bizarre qui l'accompagnait n'était autre que le pianiste Thelonious Monk. Ses relations sont catastrophiques avec la direction du Stanhope, le luxueux hôtel new-yorkais où elle a déposé ses malles en 1951. En effet, la baronne invite dans son grand appartement les meilleures pointures du bebop. Monk fait le clown dans les couloirs, coiffé d'un feutre de chasse anglais avec une canne blanche à la main. On tape le bœuf, on plaisante, on trouve un lit de dépannage les jours difficiles. Et en 1955, Charlie Parker meurt de rire sur le canapé du salon en regardant une émission à la télévision. Le Bird, souffrant, refusait de se faire soigner. Et Nika l'avait recueillie chez elle. Peu de temps après, la baronne est diplomatiquement sommée de quitter le Stanhope. Pas de soucis, elle s'offre une superbe maison sur les rives du New Jersey avec vue panoramique sur Manhattan. Pas moins de 120 chats y trouvent refuge, ainsi que les Cats, des musiciens de jazz, dont certains s'installeront à demeure. Dans son article intitulé « Elle a fait jaser » paru en 2004 dans Libération, Édouard Launay s'interroge. Comment cette femme s'est-elle affranchie si radicalement de son milieu pour aller s'encanailler ainsi? Et il cite Russell. Comme beaucoup des gens imprégnés des cultures françaises, la baronne était fascinée par la sculpture africaine, la musique afro-américaine et la négritude. Pour Laurent de Wilde, biographe de Monk, Nika était une étrangère qui entendait et voyait ce qui était indécelable pour des Américains. Il faut souvent l'œil de l'étranger, de l'européen, de l'ancêtre pour discerner le génie dans l'originalité, le beau dans l'étrange. Édouard Launay émet ensuite une belle hypothèse en forme d'hommage. Les solos des boppers sont truffés d'accords compliqués. 9e, 13e, quinte diminuée. Au point qu'ils donnent parfois l'impression de sortir de la grille, c'est-à-dire de jouer dans une tonalité différente de celle de la section rythmique. À sa manière, Nika serait-elle aussi sortie de la grille, sa grille sociale? Elle ne faisait pourtant qu'improviser sur une partition connue, mécène d'artistes d'avant-garde. Un jour, Nika posa cette question à 300 musiciens. Si on t'accordait 3 vœux qui devaient se réaliser sur le champ, que souhaiterais-tu? Elle prend plus d'une centaine de clichés polaroïdes et saisit des images de sommeil, de fatigue, de fumée ou de rire, tout en notant leurs réponses dans son carnet Hermès de cuir rouge. Les vœux formulés en disent long sur la ségrégation raciale qui sévit à l'époque aux États-Unis. Si Miles Davis rêve d'être blanc, Dizzy Gillespie, lui, imagine un monde où on n'aurait pas besoin de passeport. Tandis que Julian Cannonball Adderley réclame que la discrimination raciale soit éliminée de la surface du globe, vraiment partout. Il demande de l'argent, moins de souffrance, plus d'amour, mais surtout jouer mieux, toujours mieux de l'instrument. Servir la musique et que le jazz soit enfin reconnu. Aux 3 vœux de Monk, que ma musique ait du succès, que ma famille soit heureuse, avoir une amie géniale comme toi, Nika s'écrie « Mais enfin, tu as déjà tout ça !» Et Monk lui répond « Certes, mais ce sont des vœux. » D'autres réponses se font sages, comme celle du saxophoniste James Moody. « Atteindre la sagesse. Si j'avais ça, j'aurais pas besoin d'autres vœux. » Raisonnable ou drôle, comme celle de Louis Armstrong. La santé, c'est la vraie richesse. Moi, je n'ai jamais eu à subir la moindre opération de ma vie parce que j'ai fait attention à ne jamais être constipée. Ces carnets sont aujourd'hui un livre intitulé « Les musiciens du jazz et leurs 3 vœux ». publié chez Bûcher-Chastel. Il a vu le jour grâce à la petite fille de Panonica, Nadine de Königswater. Fin 1988, Nadine a rendez-vous avec sa grand-mère pour la tournée des clubs de Manhattan dans sa Bentley gris-perle. Au dernier instant, la baronne se décommande. Son ouvre-boîte ayant lâché, elle doit ouvrir les conserves à main nue pour nourrir ses 122 chats. Elle a alors 75 ans. Sa petite fille ne la reverra pas, mais elle parvient à sauver ce carnet, une des rares traces laissées par Nika à la postérité. Panonica Königswater, bienfaitrice et mécène des jazzmen new-yorkais, s'éteint en 1988 au cours d'une opération du cœur. Personnalité flamboyante, excentrique, Nika rayonne sur ses contemporains avec une passion et une générosité exceptionnelles. Elle a signifié pour beaucoup l'amour, l'espoir ou la survie pure et simple. Charlie Parker, Bud Powell et surtout Thelonious Monk trouveront chez elle un refuge. Les musiciens lui rendent cet amour et lui dédient une bonne vingtaine de compositions, dont Panonica de Monk, Nika's Tempo de Gigi Grice, Blues for Nika de Kenny Drew, Tonica de Kenny Dorham, Thelonica de Tommy Flanagan, Nika de Sonny Clark ou encore le célèbre Nika's Dream d'Horace Silver. Il reste peu de choses d'elle. Hormis son carnet et ses photos, on sait qu'elle a enregistré 250 heures de musique et d'entretien avec Charlie Parker, Sonny Rollins, Monk bien sûr et bien d'autres. Ce trésor sera-t-il disponible un jour ? Un film a failli se faire dans les années 80, mais la famille Königswater s'y est opposée, trouvant que la baronne leur avait causé assez de soucis de son vivant. Le 9 décembre 1988, au service commémoratif en l'honneur de la baronne Nika de Königswater à l'église Saint-Peters, Clint Eastwood déclara « Je n'ai connu Nika que peu de temps, mais j'ai découvert une femme remarquable. En tant que mécène de jazz, la baronne restera dans les mémoires comme quelqu'un dont la vie était indissociablement liée à cette musique et à ses plus grands interprètes. Elle m'a aidée dans la préparation du film Bird et je serai toujours heureux d'avoir eu l'occasion de la connaître. C'était véritablement une grande dame. »
C'était Muse et Mécène, la chronique d'Anne Serin-Rail sur Art District, à retrouver à 7h30 et 13h30.